Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo. C'est parti! Salut les déconfinés! Bienvenue dans cet épisode de Quoi de Meuf. Alors le confinement a certes altéré notre rapport au corps entre grossophobie, sport de chambre et sédentarité. Il a surtout permis à un certain nombre de personnes d'abandonner le port du soutien-gorge.
Bye bye!
Alors cette révolte mammaire est-elle pérenne et accessible à tous et à toutes? Le monde d'après sera-t-il no bra? On en parle cette semaine avec la philosophe Camille Froidevaux-Métairie et on revient sur l'histoire des seins, leur place dans la société et dans les mouvements féministes à propos de son livre « Seins, enquête d'une libération » publié chez Anna Moza.
Il y a des enquêtes qui ont montré que pendant la période du confinement, un certain nombre de femmes ont décidé d'abandonner le soutien-gorge. Donc le chiffre qui est revenu souvent, c'est 8% des femmes, mais pour les plus jeunes, pour les 18-25, c'est 20%. Et ça m'étonne pas du tout, hein, parce que j'ai vu dans mon enquête qu'il y avait une aspiration assez généralisée à l'abandon du soutien-gorge. Je pensais au début que c'était surtout des toutes jeunes femmes avec des petits seins quasi parfaits qui seraient désireuses de ne plus porter de soutien-gorge. Et je me suis rendu compte que c'était un désir beaucoup plus large. Et ça dit quelque chose d'intéressant, je trouve, de cette dynamique dans laquelle on est entraîné depuis quelques années, par laquelle, peu à peu, on expérimente un rapport au corps plus libre. Et ce qui est intéressant avec le confinement, c'est que pour la première fois depuis quasiment toujours, on a été libéré du regard extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on se prépare le matin, on fait quelque chose avec notre apparence parce qu'on sait que dans le monde, on va être regardé. Et donc, on a toute une série de petites routines esthétiques pour souscrire aux attentes et, disons, aux contraintes de la vie quotidienne. Et le confinement a permis de se débarrasser d'un certain nombre de ces contraintes. Et c'est, je trouve, une expérience assez intéressante. La question étant évidemment de savoir qu'est-ce qui va se passer quand les femmes vont à nouveau retourner dans l'espace public, au travail, etc. Est-ce qu'elles vont pouvoir tenir, si je puis dire, avec cette décision de ne plus porter de soutien-gorge? On verra, je l'espère en tout cas.
Alors, dès le début du confinement, des personnalités ont diffusé des blagues sur Internet en se demandant qui va remettre un soutif après ça.
No.
Cette mouvance qu'on appelle en anglais « no bra » a fait l'objet de nombreux articles dans la presse, souvent, malheureusement, en associant l'abandon du soutien-gorge à un déplorable laisser-aller, voire à un manque d'hygiène.
Oh Lord.
On écoute Clémence nous parler de son expérience en confinement.
Je ressentais déjà cette liberté à la fin de la journée où je retire mon soutien-gorge. Après les tensions au trapèze que les bretelles apportent, les armatures, les gênes, parfois les picotements. Et le déconfinement m'a permis de ne pas le porter pendant 2 mois et m'a fait extrêmement du bien et m'a permis de me familiariser avec ma poitrine au naturel, de la considérer davantage et de m'y habituer, donc de la trouver davantage belle, sans soutien-gorge, et d'être fière de la gravité qui attire ma poitrine vers le sol. Je m'interroge maintenant sur l'après-confinement, c'est-à-dire de retourner à la vue des autres et de ne pas porter de soutien-gorge, ce qui, moi, personnellement, ne me gênerait pas dans la considération de ma poitrine, mais qui, ayant une poitrine allant de D à E en fonction des habits que je peux porter, se voit davantage. Et donc, par expérience, attire les regards par la vue du téton, la vue du mouvement de la poitrine, la taille de la poitrine. Et même si je souhaite lutter contre les injonctions faites aux femmes de porter ce soutien-gorge et toutes les autres injonctions, je ne veux pas attirer davantage de regards sur moi, même si je veux lutter contre ces regards sur le corps sexualisé de la femme.
Merci à Clémence pour son témoignage. Alors il est vrai que le sein al fresco est une revendication à la fois de confort et de liberté, quand on peut se le permettre, mais on pense également au mouvement des fémines. Qui manifeste seins nus, ou au mouvement Free the Nipple qui a été créé en réaction à la censure des photos sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.
You can show all the side boob and under boob you want to, once those nipples come out, it's a problem. To get around it on certain social media sites, women are photoshopping men's nipples onto their nipples. That is ridiculous. How can you tell the difference? Why should one nipple be censored and the other one isn't?
Et du double standard puisqu'il s'adresse exclusivement aux femmes cis. Mais avant cela, il faut rappeler que la mise en scène politique des corps et des corps féminins a d'abord été une question épineuse dans les mouvements féministes afin de ne pas essentialiser les femmes et de ne pas les ramener sans cesse à leur corporalité.
Alors il y a un premier grand moment qui est celui de la deuxième vague dans les années 70. On connaît un peu cette anecdote qui est d'ailleurs largement un mythe hein, de ces féministes des années 70 qui vont soi-disant brûler leur soutien-gorge. Donc en fait, c'est pas tout à fait ça. Elles ont manifesté, elles sont allées jeter dans des poubelles de la liberté, comme elle les appelait, tous les attributs jugés féminins, c'est-à-dire soutien-gorge, talons et rouge à lèvres. Et ce geste était un geste d'émancipation qui consistait à se débarrasser physiquement, concrètement, hein, de ce que le système patriarcal impose au corps des femmes en termes de formatage et d'adéquation aux attentes phallocentré en la matière. Donc c'est un premier moment politique important. On a pas mal d'images de ces militants des années 70 et plus largement de la révolution culturelle des années 70 qui sont torse nu dans des concerts ou qui défilent torse nu, etc. Et puis ça a été longtemps, disons, recouvert, notamment parce que pendant très longtemps, le corps des femmes a été un peu désinvesti par les luttes féministes, ou en tout cas il a été un petit peu rangé de façon définitive du côté de l'aliénation. Et donc, il est resté presque tabou par certains aspects. Bon, il faudrait que je puisse développer, mais c'est quelque chose que j'ai montré dans la révolution du féminin. Et puis, alors, on connaît de façon plus récente le mouvement des femmes qui ont fait vraiment quelque chose qu'on peut qualifier de politisation du corps des femmes.
On rappelle que, a priori, tout le monde a des seins, mais pourtant le topless est bien mieux toléré chez les hommes et les hommes cis.
Imagine how tired we are of it.
Que l'allaitement en public est encore shamé, que le téton qui pointe est traqué. D'ailleurs, les performeuses burlesques ont elles-mêmes recours à des caches-tétons.
Pourquoi les filles, les danseuses ont mis des caches-tétons? Ben, tout simplement parce qu'aux États-Unis, dans les années 40-50, la nudité était interdite dans les peep shows, les boîtes à striptease, tout ça, c'était interdite. La nudité totale était interdite. Et donc, pour contrecarrer la loi, bah, les filles ont tout simplement créé des petits caches-tétons.
Et pour faire un peu d'histoire, les seins sont un bon exemple de ce dont parle le philosophe Michel Foucault, c'est-à-dire une technique de gestion des corps et de discipline, un véritable rappel à l'ordre, un maintien de l'ordre corporel, qui varie sans cesse entre pudeur et exhibition. Déjà au Moyen-Âge, le mythe des seins petits et ronds comme une pomme avait déjà cours.
Oh my God !
Et plus tard, on placera les bébés en nourrice, car il faudra choisir entre seins maternels et seins sexuels. Et à l'époque, on pensait que les pratiques sexuelles faisaient tourner le lait. Donc voilà.
What are you fucking crazy?
Plus tard, au siècle répressif de la contention, j'ai nommé le 19e siècle, le corset, qui a été coupable de 1000 méfaits sur l'anatomie féminine, a vraiment servi d'instrument de contrôle des corps entravés dans leurs mouvements.
It's difficult to say.
I'm told it's the latest fashion in London.
Well, women in London must have learned not to breathe.
D'ailleurs, une étude médicale parue en 1908 préconise le port du corset et écrit, je cite, « qu'il est essentiel pour assurer le développement régulier des formes, maintenir les jeunes personnes dans l'habitude de se tenir droite, puisque cela va sans dire, la femme veut paraître belle pour plaire. » Fermez les guillemets.
This is bullshit.
Il faudra attendre le tournant du siècle pour que la couturière Madeleine Vionnet, et non pas le couturier Paul Poiret, comme on l'entend souvent, mettre fin au calvaire des femmes corsetées. Et évidemment, face à cela, dans les territoires colonisés, on va voir se développer l'archétype de ce qu'on a appelé la mauresque au sein nu, qui va être diffusée par le biais de cartes postales et qui présente très souvent une féminité indigène, offerte et achetable. En 1930, c'est une Américaine à la vie assez palpitante qui s'appelle Caress Crosby, une éditrice qui a publié à la fois Joyce et Bukowski, qui va inventer le brevet du soutien-gorge, profitant du fait qu'avec la guerre, il n'y avait plus d'acier pour créer les armatures. En fait, Caresse Crosby s'appelait Mary Phelps. Elle a ensuite changé de nom et elle a même hésité à s'appeler Clitoris. Son brevet a ensuite été acheté très peu cher par la marque Warner qui l'a abondamment exploité pour se faire des couilles en or. Et les soutiens-gorge vont ensuite, au cours du XXe siècle, venir renforcer l'un des marqueurs de ce qui est perçu comme étant la féminité et le féminin, c'est-à-dire la disponibilité, qui va de pair avec une certaine dépossession de soi, notamment à la puberté.
Ce qui caractérise le corps des femmes depuis à peu près l'aube des temps, c'est en effet sa disponibilité. C'est-à-dire que depuis qu'elles ont été définies comme des êtres procréateurs, c'est-à-dire depuis qu'elles ont été enfermées dans leur fonction de mère notamment, leurs corps sont en quelque sorte des objets qui se donnent, qui se présentent aux hommes, des objets sexuels et des objets maternels aussi d'une certaine façon, ou en tout cas des corps à disposition. Et une des choses que j'ai compris notamment avec MeToo, mais un petit peu avant avec toute cette grande dynamique des jeunes féministes cherchant à se réapproprier leur corps dans toutes ses dimensions, y compris les plus intimes, c'est que cette idée que les corps des femmes sont toujours à disposition, c'était un vrai scandale dans nos sociétés occidentales censément émancipées. Et alors ce qui m'est apparu de façon très vive avec les seins, c'est que s'il y a bien une partie du corps qui n'appartient pas aux femmes, ce sont leurs seins, spécifiquement parce qu'ils ont cette dimension, on va dire, visible, préhensible. Les seins sont au-devant du corps des femmes. Pour celles qui ont d'ailleurs des seins un peu gros, c'est une des choses qui se voit en premier. Et donc, c'est comme si les seins incarnaient en quelque sorte à eux seuls cette disponibilité du corps des femmes.
Selon une étude menée par l'Observatoire des stratégies marketing en 1992, portant sur les politiques marketing des marques de lingerie, il s'avère que dans les années 60 et 70, on a surtout plébiscité une lingerie sans armature et le refus des contraintes, mais la tendance s'est ensuite inversée en mettant en avant la provocation dans les années 80, puis ce que l'étude appelle la sagesse dans les années 90, avec des réclames comme celle-ci « Voilà comment elle m'a liée pour la vie ». Donc le message d'une partie des publicités comme celle des marques Scandal ou Triomphe est le suivant, plaire à l'homme de sa vie et lui jurer fidélité. C'est sans doute prêter beaucoup de pouvoir à un soutien-gorge, mais passons. Depuis, la bralette est arrivée, c'est-à-dire une brassière sans armature. Et pour citer les mots de la chercheuse Fanny Gallo dans son ouvrage sur les ouvrières de lingerie, « Produit intime, le soutien-gorge constitue un nœud de tension entre politique et privé, domination et libération, femme-objet et femme-sujet. » D'ailleurs, on rappelle à toute fin utile qu'il est prouvé que le soutien-gorge n'est pas meilleur pour la santé, qu'il peut bloquer la circulation du sang et de la lymphe, voire créer des kystes, et qu'il ne favorise pas non plus le soutien des tissus. Alors aujourd'hui, selon une enquête IFOP publiée pour 24matins.fr, 20% des moins de 25 ans ont la poitrine à l'air libre. L'été arrive bientôt et c'est souvent la saison du harcèlement, mais le port du soutien-gorge dépend aussi des pays et parfois de la chaleur qu'il fait. On écoute Estelle nous en parler depuis le Sénégal.
Donc là, actuellement, j'habite à Dakar et je pourrais pas te dire exactement depuis combien de temps je ne porte plus de soutien-gorge. J'ai commencé à arrêter à l'été 2019 parce que c'est l'été où j'ai déménagé donc à Dakar. Et à Dakar, Sénégal, c'est en Afrique, il fait très 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 chaud. Ce qui fait que pour moi, porter un soutien-gorge, ça devenait un vrai inconfort dans le sens où en fait je transpirais pas mal en dessous des seins. J'avais des transpirations, c'était vraiment très inconfortable. Et ça me coupait la respiration, tout simplement. L'arrêt du port de soutien-gorge est venu avec mon changement de garde-robe, puisque je passais d'un climat tempéré à un climat tropical. Et ma garde-robe a relativement changé depuis que je suis à Dakar, puisque j'ai enlevé tout ce qui me serrait. J'ai enlevé tout ce qui était type pull, pour avoir quelque chose de beaucoup plus léger, du coton, quelque chose qui est vraiment très large. Là, d'ailleurs, là en ce moment, je te parle, je porte un haut blanc qui est très large, parce que le blanc, c'est très bien pour la chaleur, qui me dégage vraiment en dessous des aisselles et qui me permet de faire rentrer l'air. Et en fait, donc, voilà, j'ai commencé à changer de garde-robe, et étant donné que mes habits étaient moins serrés, donc j'ai Je pense que j'ai pas fait intentionnellement, j'avais juste moins besoin d'un soutien-gorge parce que tout simplement, en fait, mes habits étaient moins serrés, donc on avait moins de chances de voir mes tétons, on avait moins de chances de faire une fixette dessus parce que j'avais des habits beaucoup plus larges. Et puis ici, le fait de ne pas porter de soutien-gorge, c'est quelque chose d'assez normal. Non pas parce que, c'est libération de la femme. Non, c'est juste parce qu'on est dans une population d'un pays en développement où les femmes, en fait, c'est pas forcément la priorité. Et y a beaucoup de femmes qui n'en partent pas. Et ce qui fait que j'ai beaucoup moins honte de ne pas en porter.
Merci Estelle pour ce témoignage. Alors, autour du soutien-gorge, c'est toute une industrie qui renvoie une image négative, souvent associée à la honte de soi et au mal-être corporel, puisque les femmes trouvent souvent que leurs seins sont trop petits ou trop gros, jusqu'à faire des opérations de réduction mammaire. Et dans son essai qui regroupe des entretiens avec plusieurs femmes, Camille Froidevaux-Métairy a trouvé que la plupart des femmes interviewées n'aimaient pas leurs seins.
Alors oui, effectivement, une immense majorité d'entre elles n'étaient pas, disons, heureuses avec leurs seins. Certaines avaient appris à faire avec, certaines avaient appris en quelque sorte à les aimer avec le temps, mais elles étaient quand même assez nombreuses à être, disons, insatisfaites. Il n'y en a vraiment que deux ou trois qui ont tout de suite dit qu'elles aimaient leur sein et depuis toujours. Et notamment, c'est assez drôle, la toute première que j'ai rencontrée, et je dis que c'est drôle parce qu'en fait, comme j'étais là aussi assez persuadée, et c'était ce qui motivait aussi ma démarche, qu'il fallait faire quelque chose de cette insatisfaction des femmes vis-à-vis de leur poitrine, c'était un peu ce sujet-là que je voulais creuser. Et la première femme que je rencontre, elle me dit qu'elle adore ses seins, qu'elle les a toujours aimés, donc j'étais un peu déstabilisée, mais bon, les autres ont renforcé cette impression et j'ai pu mesurer, notamment chez les plus jeunes, et c'était ça pour moi le plus dramatique, de voir ces toutes jeunes adolescentes qui n'étaient déjà pas heureuses avec leurs seins.
On sait que les altérations mammaires peuvent résulter parfois de cancer du sein avec la mastectomie et la chirurgie reconstructive est parfois vécue comme une injonction. D'ailleurs, à ce sujet, on vous renvoie au podcast Impatiente qui est diffusé chez Nouvelles Écoutes. On connaît aussi la chirurgie pour les personnes trans qui le souhaitent, car d'autres utilisent le binding, c'est-à-dire un bandeau qui va dissimuler les seins. Mais ce qu'on trouve, c'est qu'en réalité, c'est souvent le male gaze, le regard masculin, qui va venir obscurcir la diversité des poitrines qui existent.
Ma principale hypothèse, ou en tout cas ce qui motivait ma démarche, c'était de voir et de révéler une grande diversité de seins, de formes de seins. Alors, je n'ai pas été étonnée, j'ai simplement quand même été frappée de la diversité, non pas du sein lui-même, mais des aréoles et des tétons, que je n'avais pas du tout anticipé ni imaginé. Donc ça, c'était une première petite surprise. Mais le vrai étonnement, la vraie peut-être même découverte, c'est celle de la dimension très changeante, très variable, très fluide des seins. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, notamment en interrogeant cette quarantaine de femmes, que les seins des femmes ne sont jamais les mêmes. Alors, ils changent bien sûr avec le cycle menstruel, ça on le sait. Ils changent bien sûr aussi en fonction des âges de la vie, mais aussi des circonstances. Grossesse, allaitement, maladie, dépression, etc. Et donc, j'étais vraiment fascinée par cette grande fluidité, cette grande malléabilité des seins qui s'ajoutait en plus à leur diversité.
Et paradoxalement, si les seins participent d'un processus d'objectification des femmes, ils sont pourtant désinvestis dans le plaisir érotique, en tout cas dans les pratiques hétérosexuelles, et ils sont souvent réduits au préliminaire et carrément évacués des scripts sexuels.
Oui, c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire que dans une première phase de la relation amoureuse, les seins jouent un peu le rôle d'appât, c'est-à-dire qu'ils sont là pour attirer, notamment attirer le regard. Mais une fois qu'ils ont rempli ce rôle, et une fois que les corps commencent de se rencontrer, ils sont complètement désinvestis, ou en tout cas assez largement désinvestis, notamment par les hommes, parce que j'ai observé quand même une grande différence de ressenti et d'expérience vécue entre les hétéros et les lesbiennes. L'immense majorité des hétéros m'ont dit qu'elles regrettaient, elles déploraient que les hommes ne prêtent pas plus attention à leurs seins, qu'ils ne les caressent pas davantage, etc. Certaines d'entre elles n'ont jamais connu de plaisir par les seins, certaines autres l'ont connu très tardivement, mais il y a quand même, disons, un peu cette constante de l'insatisfaction. Alors que chez les lesbiennes, au contraire, c'est un organe qui est pleinement investi. Je pense que c'est aussi, et elles me l'ont dit, parce que il y a une approche, disons, englobante du corps. beaucoup plus holistique en quelque sorte, hein, puisque il s'agit pas de se concentrer sur le sexe, mais bien d'envisager l'entièreté du corps des femmes. Et puis, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que les lesbiennes prennent le temps aussi, beaucoup plus de temps dans la relation sexuelle, et que ce temps permet justement, l'exploration du corps et permet aussi de prendre le temps de donner du plaisir par les seins.
Le moment
pop culture,
pop culture.
Alors dans la pop culture, il ne vous aura pas échappé qu'on fait souvent l'amour en soutien-gorge. C'est une norme hollywoodienne communément acceptée qui reste pourtant ridicule et assez peu réaliste.
Oh my God !
On spécule également sur les vrais ou les faux seins des actrices pour tour à tour les punir ou les encenser. Et souvent, à la télévision et au cinéma, le male gaze, donc le regard masculin, prévaut, puisque la poitrine va servir à susciter l'émoi du protagoniste devant le gros plan de seins ballottés en cours de sport.
Elf, I felt them up at the exact same time.
Oh my God, the breast meat is the best kind of meat. It's amazing, it's so soft, it's just... It's awesome.
Heureusement, Lena Dunham, dans sa série Girls sur HBO, a pris le taureau par les cornes en adressant très frontalement la question de la nudité. Déjà en la désérotisant, par exemple en se mettant en scène dans le bain ou aux toilettes, mais aussi nue pendant des scènes de sexe qui ne sont pas particulièrement émoustillantes.
The sex scene thing is funny because I do a lot of sex scenes in the show and I'm usually nude for them because unlike so many films we see where women are having sex in like a kind of a perky negligee, a lot of times people get naked to have sex, I think.
L'usage de la nudité dans la série a été abondamment discuté. On a parlé de voyeurisme ou au contraire de choix politiques de normalisation des corps, certes blancs, mais pas spécialement minces ni toniques. Et dans une autre série sur HBO plus récente, The Deuce, le personnage de travailleuse du sexe qui est joué par Maggie Gyllenhaal montre plusieurs fois ses seins qui sont flasques comme des gants de toilette, et ça fait vraiment du bien de voir un peu autre chose. C'est d'ailleurs ce que s'efforce de montrer souvent le porno féministe, des seins de taille variée, de formes variées, avec parfois des vergetures. Et les chansons de certaines rappeuses comme Nicki Minaj avec Black Barbies s'efforcent de se réapproprier la poitrine. Des survivantes du cancer du sein sont également inspirées par la chanson de Clara Luciani, La Grenade.
Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez mystérieux, enfin pas tant que ça, mais c'est quand même assez ahurissant d'observer qu'effectivement, dans la culture populaire de façon large et dans les représentations communes sur les affiches publicitaires, dans les magazines féminins, dans la plupart des films américains en effet, les seins sont cachés. Le paradoxe, c'est qu'en fait, on demande aux femmes que leurs seins soient attirants, qu'ils soient visibles, notamment par des décolletés ou des vêtements moulants. On leur inflige de porter des soutiens-gorge qui modifient leur forme, qui les rehaussent, qui les grossissent, qui les rapprochent, etc. Et dans le même temps, les seins normaux, les seins banals, sont absolument invisibles dans le champ médiatique et de la culture populaire. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que moi j'avais le souhait que sur la couverture, on voit un sein normal. Et ça n'a pas été le cas, et ça a été compliqué, ça a été un petit peu une lutte avec mes éditrices, mais en même temps, j'ai bien dû en convenir moi-même. On a fait des essais, et en fait, on se trouve, c'est curieux, on se trouve soi-même gêné de voir un sein normal, donc un sein un petit peu, avec un pli sous le sein, un sein qui subit comme tout le reste, les lois de la gravité. Il y a quelque chose qui dérange, en fait. Et si le sein est un peu gros, on a essayé avec un sein vraiment gros, là pour le coup, c'est à la limite du supportable, c'est-à-dire que ça fait tout de suite pornographique. Et ce que ça m'a montré de façon très concrète, c'est qu'en fait, on est vraiment complètement aveugle d'une certaine façon. En fait, on ne connaît pas les seins des femmes tels qu'ils sont, vraiment. Les seins réels des femmes ne sont pas montrés. Alors, il y a quelques petites exceptions, mais c'est très rare. Et c'est bien dommage parce que c'est quelque chose de puissant, enfin, en tout cas, de permettre aux femmes de se rendre compte que l'immense majorité des seins ne correspondent pas à l'espèce d'idéal type qui est la demi-pomme, qui est quasiment inatteignable pour chacune d'entre nous. Enfin, inatteignable dans le sens où c'est une sorte de stéréotype qui ne fait pas sens, hein, qui est d'ailleurs complètement contradictoire avec tout simplement les lois de la physique. Si on montrait davantage de seins normaux, je crois que les femmes se sentiraient mieux avec leur propre sein.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dites-nous si vous avez balancé votre soutif à la gueule du patriarcat. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode, nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu et présenté par Clémentine Gallo, mixé par Charles de Cilia, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, montage et coordination Ashley Tola.